Avant que Michel eût ouvert la bouche, elle devina pourquoi il n'était pas venu, qu'il se voulait méchant et sot. La fatigue du voyage tournait au désespoir. Ce n'était pas seulement de la faute de Michel. Elle a horreur de ce quartier, horreur des gens qu'on y rencontre. Le chauffeur de taxi, un insolent, il ne l'a même pas aidé à sortir sa valise. Si Jean ne venait pas de la demander en mariage, certainement, elle-même, elle serait différente, moins désarmée devant l'inattendu. Elle est toute sale de la poussière du voyage, elle n'aime pas être sale, elle a mal au cœur et sa tête est lourde. Il faudra que Michel lui assène de rudes coups pour qu'elle en prenne conscience. Pendant les premières minutes de la grande demi-heure que durera le monologue de Michel, elle ne l'entendra qu'à peine. Elle se répétera « Il est prêt à m'épouser » et s'étonnera de ne pas en être heureuse, mais écrasée par l'imprévu, l'impossibilité de la chose. Que lui ai-je répondu ? Elle n'en sait rien. Elle ne s'est pas jetée à son cou. Elle n'a rien manifesté de l'ouragan de sentiments contradictoires qui l'accablaient. Il lui semble maintenant qu'elle n'a pas répondu. Bien bête ! Je n'avais jamais pensé que cette honte me viendrait de toi. Mais qu'est-ce qu'il peut te trouver, nom de Dieu ? Et lui ? Tu sais ce que c'est ? Un gigolo. Même pas. Un de ces salauds qui se font une gloire de leur tableau de chasse. Le dernier des derniers. Pourquoi lui ? Hein, pourquoi ? Mais réponds. Mais réponds, nom de Dieu. Elle regarde son mari, le col déboutonné, les cheveux en désordre. Le visage de Michel est rouge, elle prend plaisir à le regarder, à le voir dans cet état. Mais elle ne comprend pas encore... Il tient dans sa main droite des papiers tout froissés. Le con, hein. Voilà ce que je suis. Le con, c'est moi. Les promenades à cheval, le magasin, de la merde. Il fallait à madame des gigolos, des rastaquois, et merde. Pendant ce temps-là, je casquais. Elle ne veut pas écouter. À quoi bon ? Quel chemin a-t-il pris pour qu'il en vienne là ? Je voudrais que tu sois ma femme. Jean ? D'une certaine façon, ce revirement la gêne, la déçoit, l'homme libre, pas comme les autres. Et tout à coup, c'est vrai, elle n'y a pas encore pensé. Il m'aime, donc ? Il m'aime, pour de bon ? Sérieusement et loin ? Dans l'avenir ? Je l'ai changé à ce point. Mais voilà comment c'est. Il faut que des lettres me la prennent, deux le même jour. Tout le monde est au courant, sauf moi. Françoise Galard, une petite garce. Oui, j'ai bonne mine, moi. Et moi, est-ce qu'il m'a changé ? Je le dis, je le sens, c'est vrai. Mais je suis ici. Je continue de vivre la même vie qu'autrefois, que du temps où je n'étais pas changée. Je suis là, toujours, à écouter les grossièretés et les insolences de Michel. Quelqu'un qui me verrait en ce moment ne saurait pas que j'ai changé. Elle retira son béret, d'un seul geste de sa main droite, l'épingle du béret accrocha son chignon, défait, ses longs cheveux blonds tombèrent sur ses épaules. Stupéfait de se trouver devant une autre femme, Michel se tut. Il s'est tu et pourtant elle n'a encore rien dit. Elle parle dans le silence. À quoi bon tout cela ? Tout ce que tu dis, tu n'en penses pas un mot. Je prendrai les torts. Je ne veux rien te devoir. Ainsi, tout est clair. Quoi ? Je te parle de notre divorce. Je suis d'accord, je l'ai toujours été. que nous divorcions. Et qu'est-ce que tu deviendrais, pauvre folle ? Petsec, de nouveau, complètement redevenu lui-même. Oui, je te vois, toute seule, dans la vie, idiote. Je ne serai pas seule, dit-elle. Puis, elle se repent de l'avoir dit. Tu veux te remarier, peut-être ? Et avec qui ? Pas avec Benoiston, du moins, ce coureur de jupe, ce salaud, avec Jean Benoiston. Elle est bien bonne. Tais-toi, dit-elle. Contre moi ce que tu veux, pas contre lui. Quoi ? Quoi ? Il aboie comme un chien. Il a la gueule d'un chien, d'un dog, le mufle en avant. Pourtant, elle n'a plus peur de lui. Autrefois, on disait de lui qu'il pouvait tuer n'importe qui dans une crise de colère. Mais c'est vieux tout cela. Et il n'a jamais tué personne. Elle ne reculera pas. Je regrette, Michel, de t'avoir épousé. Je l'ai toujours regretté. Je le regrettais avant de connaître Jean. Alors, à quoi bon tout ça ? Nous allons divorcer, le plus tôt que nous pourrons. Ce sera le mieux, pour tout le monde. Tu veux que je t'assomme, non ? Ah, voilà, je ne t'ai jamais assommé. Je ne t'ai jamais foutu une raclée pour t'apprendre. Alors ça, je le paye. Françoise, tout ce que voulait Françoise, c'était sacré pour moi. La séparation de fait, un magasin, de l'argent, tout ce que tu as voulu. Je te remercie pour tout cela, dit-elle, les dents en avant. Elle n'est plus belle, non. Le défi qui la porte, nulle peur, nulle décence n'en viendrait à bout. Elle se méprise d'avoir pu, connaissant Jean, demeurer chez Michel, une seconde de plus. Elle se méprise d'avoir tant hésité, tourné en rond toute sa vie. Michel n'aurait pas dû parler du magasin. Elle se reprochera jusqu'à sa mort de ne pas s'être enfuie dès le premier jour. Je te remercie pour tout cela, mais tout cela, tu me l'as fait payer si cher qu'à mon avis, je ne te dois rien. Je ne te dois plus rien, tu entends ? Elle prend du souffle et lui lâche en pleine face ce qu'elle garde en elle depuis 7 ans. Il était une brute, mais il y avait plus grave. On peut aimer une brute. Et un homme infidèle aussi, on peut. Il était un pauvre type, Michel, plus bête que méchant, mais bête, à un tel point que la méchanceté eût été préférable. Son argent, ses performances... Il n'avait pas plus de cœur que d'esprit. Il n'avait pas aimé sa femme, jamais, seulement qu'elle soit belle et qu'elle le flatte. Il ne prêterait pas un sou à personne sans le faire payer. Il n'a jamais été heureux, et jamais il ne le sera, avec personne. Ce qu'il lui faut, ce sont des femmes qu'on paye. Je ne t'ai pas trompée avec Jean. C'est lui que j'ai trompé avec toi, en acceptant de passer pour ta femme. » Elle voit, sans violacer, le visage de Michel. Elle ressent le frisson de haine qui le parcourt. Elle sait que, d'une claque, il la jetterait à terre et qu'elle n'a rien pour se défendre que des mots. Précisément, c'est une jouissance horrible que de vaincre sa peur, que de le vaincre, lui, avec ça. Elle a lancé toutes ses forces dans la bataille. C'est elle-même, tout entière, qu'elle oppose à l'éventualité de prolonger d'un jour cette honte et ce mensonge de leur mariage. Et c'est elle-même aussi qu'insultant son mari, elle condamne, dont elle déplore la modération, la couardise, l'inconcevable docilité à un esprit de convention. Son désir de soleil était trop égoïste, insuffisant son besoin de bonheur. Michel peut supplier « Tais-toi !» hurler « Te tairas-tu ? » Il faut qu'elle continue à l'outrager, en face, sans lui montrer sa peur, pour qu'il lui dise enfin « Va-t'en ! Tant, je ne veux plus te voir, pour que c'en soit fini de cette vie sans issue. » Elle voit, comme dans un rêve, qu'il tient une chaise à la main. Il a posé une main sur le dossier de la chaise, l'une des deux chaises en pierre auquel elle tient le plus. Il l'a soulevée sans même s'en apercevoir. Il l'a brandie au-dessus de sa tête. Comme dans un rêve, elle entend une porte claquer et le cri de Louise. « Monsieur !» Rien n'existe plus pour elle que deux corps sur une plage, le toucher d'une chair qu'on aime, la vie qui s'offre, belle et chaude, à ceux qui osent la vouloir. Ce n'était plus leur chambre, s'ils s'y trouvaient seuls. Un lieu étranger, inconnu. Il n'en avait jusqu'alors passé le seuil qu'après s'être effacé devant Françoise. Il ne l'avait jamais vu dépouillé de Françoise. Sans la chambre, la femme n'était qu'un écrin vide. Qu'est-ce qu'un écrin vide ? Une boîte. Il s'amusa de la métaphore et se promit de ne pas l'oublier. Elle plairait à Françoise aussi. Il alluma un de ses longs cigares dont un camarade à Istres lui avait vendu une caissette. Il enleva son veston et s'allongea sur le lit pour fumer. Que les lieux ont donc peu d'existence par eux-mêmes. Une chambre sans la femme, un avion sans le pilote. Le velours des rideaux n'était pas neuf. On y voyait, ici et là, des traces d'usure. Il ne pensait à rien. Heureux d'avoir parlé à Françoise franchement. Il avait bien dîné. Plus tard, il ôta sa cravate et se déshabilla. Il se glissa dans les draps. Sa montre-bracelet indiquait 9h20. Il commença de s'inquiéter. L'inquiétude vint tout à coup. Françoise n'était jamais en retard, ou elle le prévenait. Une des nombreuses vertus qu'il appréciait en elle, l'exactitude. Il s'assit sur le lit, peut-être avait-elle téléphoné, et n'y avait-il personne au bureau de l'hôtel? Il y a eu tout à l'heure comme une sonnerie insistante. Il se leva et se mit à marcher en long et en large dans la chambre, tout nu. L'euphorie du bon repas, du cognac, du cigare, de l'attente de Françoise dans la paix de son corps, tout cela s'évanouissait. Il commença de penser aux raisons qu'il avait d'être mécontent. Il n'en manquait pas. Autrefois, il n'aurait pas décoléré depuis 2 jours. On le faisait revenir d'Istres. Interrompre les essais. Pourquoi ? Pour participer au meeting du Bourget. Mon vieux, ça ne pouvait pas se passer sans vous. On faisait convoyer le poisson par un autre. Et Villamont. Son avion cible, jusqu'à ce détail, un aménagement de pompe de transfert sur réservoir que, Dieu sait pourquoi, systématiquement l'ingénieur retardait. Et la nouvelle transformation de la dérive, dont il n'était plus question, et la fin des essais qui ne tarderait pas, et cette corvée noire. Le manuel d'utilisation à se taper seul. Mais le meeting demeurait le principal sujet de mécontentement. « Mon vieux, ça ne pouvait pas se passer sans vous. » « Comment donc ? » ?»« Exhibition des nouveaux prototypes, cassage de gueule. » »« En fin de compte, toujours, c'est le pilote qui paye pour rien. »« Pour la gloire des ailes françaises. » »« Voir portefeuille du grand patron. » Le SC-101 participera au meeting. Le grand patron a fait doubler les équipes. Travailler de jour et de nuit, le poisson volera demain, avec ou sans aménagement, avec ou sans transformation de structure. Il volera demain, après-demain et dimanche. Le public veut entendre le double bang. Le fameux double bang, sensationnel, éblouir les Pékins. Pour éblouir les Pékins, il y a 2 ans, à un meeting comme celui-là, Rozanov s'est cassé la gueule. Le jour d'un meeting, le pilote d'essai n'est plus qu'un clown, une manière d'équilibriste. Bang, bang et bang. une escadrille d'avions au meeting du Bourget, pour la première fois, fera le double bang. Jean rejette le cigare qu'il enfume. Il s'étonne d'aussi souvent penser à la mort depuis 2 mois. Résultat, il ne l'a jamais vu aussi souvent de près. Sur un seul prototype, 3 fois. Le tuyau à oxygène, les troubles de la vue, le train d'atterrissage. La mort lui faisait signe, elle le cherchait. Il lui faut se souvenir de la drôle de guerre pour revivre des jours à ce point fertiles en émotions. À ce moment-là, c'était l'épisode d'Irène, l'amour et la mort. Il ne faut pas en rire. Pensant à la mort, ainsi, c'est encore à Françoise qu'il pense. Françoise, Michel, la mort, tout mélangé dans une sorte de confuse terreur. Michel participait à l'attaque des ponts de Sedan. 10 bombardiers des escadres 34 et 38, 10 bombardiers pris dans le feu de la DCA pour commencer, puis harcelés par les vagues successives d'une 30aine de Messerschmitt. C'était ce jour-là que le commandant D, père de 3 enfants, avait arraché de son siège au moment du départ le mitrailleur d'un AMIO 143 pour prendre sa place. Moins de 10 minutes plus tard, Jean voyait l'appareil s'écraser sur le sol. Et cet autre mitrailleur, un garçon de 22 ans, qui passait près des camarades pour un petit gigolo, un fumiste. Son appareil aussi était tombé en flammes. Et dans les flammes, le petit gigolo continuait de tirer vers le ciel. 45 secondes de combat. Sur les 10 bombardiers de nuit en mission de jour, 5 étaient revenus, volant à 140 à l'heure, presque en perte de vitesse, à cause du chargement de bombes non larguées. Oui, Michel. Le soir même, un sale rampant, ayant eu le culot de dire que ce n'était pas du joli travail, Michel lui avait cassé la figure. Jean passe son pantalon, sa chemise, il ne peut plus rester dans cette chambre étrangère, il lui faut de l'action, de l'air. 9h35, il descendit l'unique étage qui séparait la chambre du bureau de l'hôtel. Derrière le bureau, une jeune femme aux yeux là lui fit un gai sourire. « On n'a pas téléphoné ? Pardon ? On ne m'a pas téléphoné ? Non. » Elle cessa de sourire, il sortit. La maison de Françoise est à l'autre bout de la ville. Passé au garage, chercher sa voiture, il n'y pensa pas. Il marchait. Il ne sait pas exactement où elle habite. Il connaît le quartier vaguement. Il n'est jamais allé chez elle, mais il sait Françoise fatiguée ce soir. Et Michel, une brute, qui n'était même pas à l'arrivée du train. Et il s'avoue qu'il s'est, lui, Jean, conduit dans toute cette affaire comme le dernier des saligots. Depuis le début, je l'ai toujours laissé se débrouiller seul, jamais un coup de main, jamais une aide. J'aimerais que vous soyez ma femme, idiot, mufle. Imagine-t-il seulement ce que c'est qu'avoir une femme, que s'évader de soi, que vivre un peu pour l'autre? Il a tourné 2 fois le coin d'une rue et traversé 3 carrefours. Quand il se demande « Où vais-je? Qu'est-ce que je fais ?» il se répond qu'il n'en sait rien. Pour la première fois, il pense que peut-être elle ne l'aime pas. Que voulait-il? Courir chez elle, parler à Michel d'homme à homme et pour lui dire quoi? Lui parler de Françoise et de quel droit? M'aime-t-elle seulement? Pour coucher avec moi, oui, elle m'aime. Elle aime mon corps et puis... si elle n'est pas venue ce soir, n'est-ce pas la conséquence, n'est-ce pas dans la ligne de son refus de me répondre au café tout à l'heure? Et aussitôt après, il pense. Et si maintenant elle était à l'hôtel, m'attendant moi, par quel chemin y serait-elle allée? Pendant des secondes et des minutes, il se débat dans la mélasse de ses pensées. La pensée et lui ne sont pas copains. Cet effort l'étourdit.